Mardi 2 octobre, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous et toute contente d'être là pour une autre émission de l'aérospatiale, bien entendu. Aujourd'hui à l'émission, Karine Payette nous parle de son exposition l'autre dimanche matin qui est présentée au lieu jusqu'à la fin de semaine prochaine. Catherine Boivin excuse-moi Catherine, je viens de te débaptiser. Catherine Boivin viendra nous parler de l'exposition de Laurent Guérin ainsi que d'un projet d'exposition qui réutilise le bronze, le vieux bronze du Château Frontenac, du toit du Château Frontenac. On discute aussi avec Geneviève Lapierre au sujet de son exposition Créature en désordre qui est présentée à l'établi. Et Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et je l'accueille également. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Tu nous tends une petite carotte?
Une controverse autour d'une une œuvre de Mounir Fatmi à Toulouse.
Mounir Fatmi qu'on avait vu à la Manif d'art. Je suis vraiment curieuse de cette controverse-là. Et cette semaine, Simon Roy n'était pas disponible pour nous présenter l'artiste audio qu'il avait sélectionné pour la semaine. Et Raymond, tu t'es improvisé Simon aujourd'hui.
Oui, ben en fait, Simon nous a fait parvenir sa sélection audio de cette semaine. Et j'avoue, comme à chaque semaine, j'ai toujours un point d'interrogation avec le quid, donc qu'est-ce. Et comme ben, tu m'as dit, Simon ne sera pas là pour nous dire quid, eh bien, je me suis dit, je vais investiguer un peu plus avant. L'artiste qu'il nous propose, Simon Roy, cette semaine, c'est le Bruce Aharizabalaga Quintet avec l'album Mfamoudou Boudougou. Donc, Mfamoudou Boudougou. Je m'étais pas pratiqué, ça paraît. Qui est le Bruce Aharizabalaga Quintet? Essentiellement, donc, c'est un groupe qui a été formé par Marcus Bruce et Pelayo Fernandez Aharizabalaga.
Donc, voilà.
L'union
donc
des deux noms de famille. C'est pas leur premier groupe d'ailleurs, ça, le Quintet, ça a été formé en 2002, mais ils avaient déjà formé un groupe aussi en 84 qui s'appelait Clonicos. Alors peut-être que ceux qui suivent la scène expérimentale, mais surtout la scène du free jazz, vont connaître un peu plus donc cette formation-là. L'album qu'on va entendre, donc je redis le nom pour le plaisir, Mfamoudou Boudougou, eh ben ça a été enregistré dans un concert en juillet 2003, en fait dans deux concerts, un à Malagua, l'autre en Espagne. Concert qui a été sorti via en format album sur l'étiquette Hazard Records. Et fidèle à son habitude, mais Simon Roy nous propose toujours des albums qui sont disponibles gratuitement sur le web. On mettra les liens sur le WordPress de l'aérospatiale, donc l'aérospatiale.wordpress.com là-dessus. Fait intéressant d'ailleurs, Marcus Bruce notamment et j'imagine Aharizabalaga sont des musiciens de vive expérience. On dit que Bruce a enregistré plus de 2000 pièces musicales.
Wow.
C'est une figure importante de la scène free jazz, notamment de la scène éclectique. On le dit influencé par le classique, par la musique populaire, par la musique expérimentale. Outre les formations que j'ai mentionnées, il y en a chapeauté plusieurs autres. Il a collaboré également avec plusieurs des grands noms du free jazz. Donc, on aura l'occasion, je crois, au fil de l'émission, mais d'entendre quatre extraits de pièces de maîtres ou de figures importantes d'une scène musicale, donc qui est le free jazz, qui est, on le sait, une branche de ce qu'on peut appeler globalement l'art audio, la scène expérimentale ou le reste, les nouvelles musiques.
Eh bien, merci beaucoup Raymond, qui, comme je disais, s'improvisait Simon Roy aujourd'hui. Donc, on va tout de suite écouter une pièce, c'est The Dark Side of Frigilia sur les ondes de CKRL. Voilà, c'est un extrait de The Dark Side of Frigiliana, une suggestion de Simon Roy qui se retrouve sur l'album. Et là, moi non plus, je me suis pas pratiqué. Une femme au doux boudougou de Dubreuil Arrizabalaga Quintet. C'était, comme je le disais, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, Simon, si vous voulez écouter son émission, ben, c'est dimanche dès 21h. Web, musique. Et là, je me tourne vers Raymond Poirier. Tu nous as parlé de Mounir Fatni. J'espère que tu commences avec lui.
Ben oui, regarde, on met un frein au suspense.
Ben ouais.
On met en contexte, en fait, il y a un festival présentement à Toulouse qui s'appelle Printemps de Septembre, un festival qui intègre des éléments d'art visuel et auquel Mounir Fatmi a été convié à participer. Il présente, dans le cadre de cet événement-là, des projections sur un pont de Toulouse. C'est des projections d'une vidéo qui montre des cercles inspirés de rotoreliefs de Marcel Duchamp qui tournoient avec à l'intérieur de ces cercles-là des versets calligraphiés du Coran et des hadiths des paroles du prophète de l'islam, Mahomet.
On en avait vu justement de ça à la manif d'art, là, les projections sur le mur.
Exactement. Et là-bas, ils étaient sur le mur. Ben, en fait, ici, ils étaient sur le mur, les projections. Là-bas, ils sont sur la structure du pont, mais aussi sur le sol du pont. Donc, normalement, en fait, la manière dont la présentation de ces œuvres-là se passe, c'est qu'il y a donc des limitations au niveau des lieux de marche pour pouvoir apprécier la projection, qu'il y a quelqu'un également qui est là qui peut la mettre un peu en contexte. Donc, normalement, l'installation devait fonctionner seulement 2 week-ends, mais malheureusement, en fait, l'installation a été mise en marche, a été enclenchée également une journée de semaine. Et comme il n'y avait pas de dispositif pour empêcher les gens de marcher sur le pont, ben les gens continuer évidemment à marcher sur le pont. Mais on se rappelle donc, dans l'œuvre, il y a des versets calligraphiés du Coran, des hadiths de Mahomet. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont marché là-dessus. Il y a des gens de foi musulmane qui ont été outrés de voir les gens marcher là-dessus, qui ont attaqué les gens qui marchaient sur les versets du Coran. Inversement,
oh là là.
Il y a d'autres gens qui, visiblement, n'aiment pas les gens de foi musulmane et n'aiment pas la religion islamique et qui, eux, crachaient sur les versets du Coran qui étaient inscrits. Donc, pratiquement, une émeute. Il y a une femme qui a été giflée notamment et d'autres qui ont subi quelques problèmes. Évidemment, des gens qui ont été choqués aussi des réactions d'autres gens. Il a fallu un imam pour lancer des appels au calme aux gens qui étaient sur place. Et donc, des gens qui étaient outrés de voir justement que quelqu'un avait mis le Coran par terre. Mounir Fatmi, qui est d'origine musulmane, selon ses mots, lui s'est défendu de toute volonté de provocation, dit c'est un malentendu. Et il a dit, regardez, comme les circonstances de présentation de cette œuvre-là ne sont pas idéales dans le contexte actuel, j'arrête tout simplement la présentation de cette œuvre-là qui est retirée. Donc, du festival, il n'y aura pas d'autres projections de l'œuvre.
Et c'est vraiment horrible comme histoire.
C'est complètement
vraiment
fou. Complètement fou. On passe plus rapidement sur les autres nouvelles. On reste dans la controverse. Une petite note au passage, parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Et on savait qu'Ai Weiwei avait récolté beaucoup de sous pour aller au tribunal chinois pour contester un édit autour de ses impôts qui lui demandait une somme de 1,7 million d'euros. Donc, pratiquement quoi, plus de 2 millions de dollars. Donc, il s'est présenté au tribunal, avait réussi à avoir des appuis internationaux pour avoir les moyens de se présenter au tribunal, mais finalement, le tribunal n'a pas vraiment considéré la requête, ce qui n'est pas nécessairement étonnant, là, puisque c'est très rare qu'ils considèrent les requêtes de dissidents au régime.
Ouais.
Une autre controverse, tiens, on est là-dedans aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est un artiste russe. Artiste, ce sera à toi et aux auditeurs, auditrices de décider si effectivement c'est le cas. Qui est soupçonné d'avoir vandalisé une peinture de l'Américain Mark Rothko à la Tate Modern de Londres. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? C'est qu'il a écrit, je le traduis évidemment, Vladimir Humanets, c'est son nom, une œuvre potentielle de yellowisme sur la toile de Rothko, donc à la peinture noire. Et lui dit, regarde, je n'ai pas vandalisé l'œuvre. Je suis un artiste. Mon courant artistique, c'est le jaunisme, le yellowisme. C'est un courant qu'il a inventé. Et essentiellement, sa démarche, lui, c'est d'ajouter des éléments à une œuvre d'art pour en augmenter à terme la valeur. Et donc, il estime que sa contribution à l'œuvre de Rothko aura une influence positive sur la valeur et sur la renommée de Mark Rothko. Et donc, c'est pour ça qu'il a accompli ce geste-là. Bon, moi, je me pose une petite question. Lui, en fait, il se compare à Duchamp, qui avait fait scandale en signant une urinoir avant de l'exposer en 1917. Alors, il dit, regardez, moi, je fais la même chose. Réaction?
Ben non, en fait, je vais prendre le temps de penser avant de réagir, mais je vais inviter nos auditeurs, si jamais vous avez des commentaires ou des réflexions là-dessus, allez sur l'aérospatiale.wordpress.com. On est vraiment intéressés de vous lire, parce que Il faut prendre le temps de digérer la chose.
Effectivement. Alors, une question et dossier à suivre. On mettra les liens vers l'article d'ailleurs sur le blog l'aérospatiale.wordpress.com. Deux petites vites rapidement. Si vous allez sur le blog, vous allez tomber sur un article du Figaro qui pose la question, est-ce qu'il y a trop d'expositions d'art visuel à Paris, puisque eux s'intéressent à la scène française et ils ont l'impression qu'il y en a beaucoup. Notamment, parmi les raisons, ce qu'on dit, c'est que, et je cite, « L'art contemporain, si à la mode, illustre bien le phénomène de masse. La rapidité prime sur la qualité. On cherche toujours du neuf, du spectaculaire, censé apporter quelque chose à un public affamé. Ce zapping forcené fait du tort aux artistes soumis à la pression de la production et à la répétition. » Alors, est-ce qu'il y a trop d'expositions? Est-ce qu'il y a trop de musées? Est-ce qu'on demande trop de production aux artistes? C'est les questions qui sont soulevées dans cet article du Figaro.
Il n'y a pas d'artistes qui ont répondu?
Pour l'instant, on n'a fait que des rencontres avec les institutions muséales et les galeries.
Ce serait intéressant de voir si les artistes ont... quelque chose à dire à ce sujet-là.
Et en terminant, dans le registre Démocratisons l'art, il y a un prix qui a été remis, donc le People Prize, donc qui a été remis par un hôtel, un Asia Contemporary Art Show, qui avait organisé dans les suites d'un hôtel la cité chinoise de Hong Kong. Donc un concours, et dans le fond, les gens étaient appelés à voter en faisant like sur Facebook sur le profil de l'œuvre qu'ils préféraient. Alors une nouvelle manière de proposer des prix du public, et dans le domaine de l'art, évidemment, on espère aussi, avec des initiatives comme ça, attirer des gens et intéresser des gens à observer, à s'attarder un peu à certaines œuvres. Alors, une initiative qui a eu lieu tout récemment.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On t'écoute vendredi dès 17h30.
Pour parler BD, 9e art.
Voilà. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute Tsurugi sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un extrait de l'album Une femme oudou, boudougou, une suggestion de Simon Roy. Et c'est quand même plaisant. C'est quand même plaisant à dire, malgré le fait qu'on doit se pratiquer un peu dans notre tête afin de le prononcer adéquatement. Et on s'en va sur la rue Saint-Vallier. En fait, on reste à CKRL, mais on se projette dans l'univers de l'établi sur la rue Saint-Vallier. On accueille Geneviève Lapierre qui présente Créatures en désordre. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Oui.
Créatures en désordre. Peux-tu nous présenter, peut-être de manière générale, ton exposition? Qu'est-ce que c'est? À quoi on s'attend?
C'est une exposition. En fond, si je parle de ma technique, c'est un petit peu... Faut le spécifier parce que c'est un peu élaboré quand même. Là. Moi, je prends des photos. Je fais des mises en scène. Je prends des photos avec des personnages. Et ensuite... je les mets sur Photoshop, fait que le gros de mon travail c'est sur Photoshop. Je fais en fait de la peinture numérique et ensuite je l'imprime sur la toile.
Ben oui.
Et après je vais un peu rajouter de la peinture, fait que ça crée un peu des questionnements face aux limites des médiums. C'est pas mal ça pour la technique.
Puis créatures en désordre, donc ce sont des personnages, des mises en scène, comme tu disais, qui sont comme insérés dans des décors un peu plus imaginés, tout ça.
Fantasmagorique.
Ouais. Bon, voilà.
C'est pas mal ça que je pense, que j'ai trouvé comme mot.
OK.
Ouais.
Voyons, où est-ce que j'allais en venir? Ah oui, c'est ça, créature en désordre. Moi, je m'arrête au titre. Mm-hmm. L'idée de créature, pour moi, ça réfère comme à une hybridité ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est à ça que tu pensais quand tu as nommé ton expo?
Mais je pourrais, j'ai amené la phrase.
Ah, là, OK.
Mais en fait, c'est ce que, j'ai une phrase, c'est celle qui m'a comme inspiré, parce qu'on s'entend, là, c'est pas, je me laisse assez libre, là, comme travail, là. Je suis pas pris dans mes idées, là, mais, je fais ça sera pas long, la construction des images. Là où l'organisation naturelle des corps échoue, les personnages proposent des extensions révélatrices d'un état qui s'accroche à l'être, telle une identité criarde impossible à camoufler.
OK.
C'est ma phrase.
C'est celle vraiment qui t'a guidée.
C'est
là,
celle qui m'a guidée. Oui, c'est ça. C'est un peu un questionnement identitaire. Et encore là, je précise, c'est la base de l'idée, là. C'est l'inspiration, parce que là, ça a vraiment pris plus de direction que ça. Mais l'idée, c'est un peu avec les possibilités qu'on a dans la vie par rapport à notre identité, comme par exemple, on peut se faire implanté, il y a toutes sortes de choses. L'exemple le plus banal, c'est des seins ou se transformer.
Des tatouages, des implants,
ça peut transformer le nez, puis on peut, les implants, c'est les cheveux. On peut vraiment se transformer, mettre notre identité en image. Et moi, j'ai essayé de le faire, mais à place de partir par à partir de des idées extérieures, c'est vraiment plus à partir des états d'âme.
Okay.
C'est comme si on prenait nos états d'âme, puis ils sont tellement forts qu'il faut qu'ils sortent. Puis c'est ça, puis les projeter sur en fait sur l'image là, c'est un peu ça, mais bon, en tout cas.
ça dépasse aussi quand même.
Oui, c'est ça.
Parce que tu sembles quand même te dire bon, j'ai cette idée là, mais dans le fond, moi je m'emballe là, puis là j'embarque dans mes choses, puis une fois le processus enclenché, là tu pars, puis
mais je trouve que ça fait souvent ça en art visuel, on est porté beaucoup à écrire pour les demandes de subventions, pour les envois dans les dossiers pour les galeries et tout, on doit écrire énormément, puis c'est difficile de toujours se ramener à la réalité non, c'est quoi qu'on va faire, il me semble que c'est exagéré, c'est pas vraiment ça. Fait que là on l'écrit, puis après souvent mais là il faut qu'on le travaille.
Mm-hmm.
Puis là ça aussi c'est une autre affaire. L'écriture ça prend une direction, le travail ça prend une direction, c'est toujours ouvert, c'est un travail toujours ouvert. Fait que c'est sûr que c'est ça la création, c'est la recherche. C'est qu'il faut rester ouvert.
Mais puis c'est partir d'une idée aussi puis l'amener ailleurs,
oui,
faut la faire évoluer.
Je pense que personne qui a envie de rester fiché
Non, on le souhaite pas non
chose,
plus. Tu parlais tout à l'heure de ta technique.
Mm-hmm.
En fait, il y a vraiment comme un métissage. Puis on sent vraiment ça que tu joues hein, sur l'idée de fusion un peu des techniques. Tu parlais de peinture numérique, puis bon, de peinture là, à l'acrylique. Je pense que tu travailles.
Ouais.
Tu joues quand même sur la limite, hein, parce que ce que tu vas... le téléphone sonne, c'est quand même assez drôle. Ce que tu vas...
Ça me fait à part de ça, puis je ne trouve pas.
Bon, ben, coudonc, peut-être que finira-t-il par arrêter de sonner. Si en attendant, on a une petite musique d'ambiance. Oh, je pense qu'on a trouvé le téléphone.
Okay,
donc, ma question était, un petit moment improvisé ici, ma question était la suivante. Donc, tu travailles plusieurs techniques.
Oui.
Bon, la photo, tu travailles sur Photoshop, tu fais de la peinture numérique, mais la peinture plus physique en tant que telle, tu viens vraiment comme l'intégrer, là, tu sais, tu poursuis la peinture numérique, là, puis des fois, on sent qu'il y a une petite texture, mais tu fonds vraiment, là.
Oui, c'est vraiment pour créer une confusion, un questionnement. Je veux que les gens se questionnent sur le contenu de l'image, mais aussi sur la matière. C'est pour pousser plus loin, dans le fond, pour que les gens s'attendent plus longtemps sur l'image.
Oui, parce que là, vraiment, on n'a pas le choix, là,
d'observer. Ah non, c'est clair. Mais j'essaie vraiment, en tout cas, c'est important pour moi que ça soit vraiment aux deux niveaux, tant pour l'idée que la technique.
Puis, mais les photos, par exemple, elles, on sent quand même, ça reste de la photo, même si tu vas intervenir sur les photographies quand même, il y a quand même un contraste malgré tout.
Ouais, j'ai cette idée-là quand je faisais mon bac, puis ça m'a pas lâché encore. Je sais pas si ça va peut-être finir par me lâcher, mais En tout cas, ça fait encore réagir beaucoup, je trouve. Pourtant, tu sais...
Ah ouais, les gens réagissent à
ouais,
ça?
Ouais, tout le monde en parle beaucoup, beaucoup. Okay. Je parle plus de ça que de l'image, que, tu sais, que le contenu, presque, là. Parce que je pense que c'est parce que c'est un médium encore nouveau, l'image numérique. Puis, je trouve que c'est une façon de l'aborder soft, on peut dire.
Ouais, ouais, ouais.
Tout en douceur, parce que, justement, quand on voit de la peinture, bon, les gens, quand ils voient de l'art, « Ah, tu fais de la peinture », souvent, c'est ça, tu sais. Ou de la sculpture, mais tu sais... Fait que c'est comme une manière de la porter doucement vers l'image numérique. Mais de toute façon,
Ben, je te relance, en fait. je te disais, je trouvais qu'il y avait un contraste entre la photographie puis le côté plus pictural. Quand même, les personnages, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, ils sont vraiment comme dans des décors imaginés. Tu sais, tu les mets pas comme en contexte dans la réalité, ou etc. Là, c'est vraiment comme... un pendant de l'émotion, peut-être, dont tu parlais tout à l'heure, que tu voulais faire ressortir.
Oui. C'est difficile de dire pourquoi je fais ça, là. Je pense que d'année en année, en tout cas pour ce projet-là, j'ai vraiment essayé d'isoler le personnage pour qu'il reste l'essentiel du personnage. Ça, c'est vraiment dans le projet, là.
Oui.
Avant, il me semble, il y avait plus d'architecture ou d'environnement. En tout cas, là, ça s'en va, ça va peut-être revenir. C'est vraiment un pied dans l'imaginaire, ouais. Un pied dans le réel.
C'est ça, c'est parce vraiment, qu'il y a une phrase ça. Aussi, justement, que j'imagine, c'est toi qui l'avais écrite, où tu disais t'es intéressée à l'humain dénaturé et isolé, ouais. Par son univers physique et mental. Ouais. Est-ce que c'en est un peu dans l'incarnation?
Ouais. C'est vrai, il est dénaturé, oui. C'est un peu... Mettons que ça fait longtemps qu'on est seul dans son appartement, puis on décroche un peu avec la réalité. On dirait que c'est comme une photo de ça. C'est,
ouais.
Parce que c'est vraiment...
Seul dans sa projection mentale.
Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment un pied dans la réalité, un pied dans l'abstraction ou l'imaginaire. C'est vraiment ça.
Mais quand je regarde aussi tes œuvres, je peux pas m'empêcher de voir un côté un peu décoratif. Il y a beaucoup de textures, il y a des motifs, des personnages isolés au centre. Même ça m'a fait penser à Gustave Klimt.
Oui,
je dois pas être la seule à te le dire.
Non, pas du tout. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, ça, écoute, ça date... C'est tellement longtemps que je fais... avant même le cégep, je pense, Gustave Klimt, j'adorais Gustave Klimt. Et puis là, ça a l'air que ça ressort encore. Pourtant, je veux dire, je suis allée vraiment ailleurs, mais ça ressort encore. Mais j'aime ça. J'aime ça. C'est comme un cadeau pour les yeux, pour moi. L'ornementation, les harmonies de couleurs. C'est comme... pour se gâter. Parce que des fois, je peux aller dans des sujets, bon, assez sombres. Puis, je trouve que ça balance. Tu sais, je n'ai pas envie que ça soit trop noir, trop triste, lourd. Je trouve que ça fait un équilibre. Quand les sujets sont lourds, que ça soit harmonieux, beau.
Ouais. L'harmonie semble importante aussi, comme entre les formes et les couleurs là, dans tes
compositions.
C'est ce
que je préfère faire. C'est ce que je préfère faire, c'est sûr. C'est la composition.
Ah
vraiment, ouais? Oui, c'est vraiment mon moment. D'ailleurs, c'est ça que je fais le plus. C'est ça qui se passe sur Photoshop. C'est vraiment mon moment de composition. Puis ça, je perds totalement la notion du temps-là. C'est vraiment là que ça se passe pour moi. J'adore Photoshop.
Bon, tant mieux. Ouais. Hein? Je trouve aussi, quand je regarde les images, il y a un côté quand même assez baroque hein, dans le travail, justement, l'ornementation, les couleurs, la superposition comme des images ou des sens qu'on pourrait observer. Une observation, peut-être, toi, c'est pas une influence ou quelque chose qui t'inspire,
non,
mais...
Ben, le baroque, précisément, c'est un mélange de genres, je pense, peut-être plus, je sais pas exactement.
Ben, c'est la théâtralité, tu sais, il y a un côté très mise en scène aussi, tu sais, dans ton travail.
C'est
moi,
clair qu'il y a
beaucoup
mise en scène, puis ça, moi, je pense que ça, le côté mise en scène, c'est clair pour moi qu'il est fort, puis là, les costumes, parce que moi, en fait, je suis aussi costumière,
okay.
Entre autres. Ça a donné de même, là. Avec la vie, je me suis ramassée à faire beaucoup d'assistance aux costumes, puis là, finalement, faire des costumes. Fait que c'est sûr qu'un côté mise en scène, je travaille un peu dans le théâtre, mais à la base, avant même d'aller à l'université en art, avant d'aller étudier en art, je voulais faire scénographie. Et okay. Finalement, j'hésitais. Puis finalement, je trouvais que les arts, c'était plus de liberté.
Fait qu'on sait vraiment, ça reste quand même là, comme préoccupation.
Ça reste. Oui, ça reste. Je voulais aussi faire du design de mode. T'sais, j'aime les vêtements, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe là.
D'ailleurs, parlant de vêtements, en fait, ça plus ou moins rapport, je pense plutôt accessoire, mais au centre de la pièce, ça fait une grande sculpture, ouais. Vraiment avec une tête, un corps de mannequin, puis des perruques.
Ouais, des tonnes et des tonnes de perruques.
Des couleurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette sculpture-là?
Ben, c'est un peu ça. C'est que je suis tellement là-dedans, là, les perruques, les costumes. Au départ, je vais faire une sculpture. D'abord, c'est le même concept, là. Je vais faire un personnage avec une extension de son état d'âme, là. C'est sûr, c'était vraiment ça au départ. Mais comme j'étais beaucoup dans la couture, je me disais, je pourrais essayer d'intégrer justement ce savoir-faire-là. Et finalement, ça s'est ramassé à être des cheveux, mais je me suis fait prendre là, un peu parce qu'au départ, j'avais vraiment des vêtements, puis j'essayais plein de choses, puis c'était pas super. Ça marchait pas, puis là, j'avais des cheveux, puis là, j'en mets, puis je regarde, puis finalement, ben ça je suis allée acheter peut-être 10 fois des cheveux. J'allais voir la petite madame, bonjour!
C'est des cheveux ou des perruques? C'est des rallonges,
C'est des rallonges dans les boutiques de coups de tresse, là, africaines. Ouais. La dame, au début, j'étais là, bon, j'aurais besoin, je fais une sculpture. Finalement, je pense que je suis retournée 5-10 fois, je sais plus, là, pour aller chercher des cheveux. Fait que sur le personnage, c'est vraiment des rallonges. En bas, c'est des perruques. Là,
OK, OK. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de réexplorer, la sculpture?
Si ça se présente, c'est certain que oui. Il faut l'avoir la... En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé... Ça m'a toujours attiré, la sculpture, parce que c'est vraiment des raisons pratiques. C'est vraiment...
C'est de l'espace, du matériel.
Oui, je trouve que ça prend de la place. Ça prend... Ouais, c'est vraiment ça. Ça me tente moins à cause de ça, on dirait.
Peut-être dernière question en terminant. Tu disais justement que tu travailles dans le milieu du théâtre. Je pense qu'il y a un spectacle là, qui s'en vient ou qui est en cours, là, inspiré de ton travail. Oui, peux-tu nous en parler?
On est en création, mais en fait, c'est... Moi, je suis de la celle au costume, là, dans l'histoire.
OK.
Ça fait un peu drôle à dire, c'est la metteur en scène, ben, en fait, est comédienne Maryse Lapierre, qui a décidé d'écrire, de devenir auteur pour le théâtre et de mettre en scène son texte, qui m'a demandé, ben, en fait, on est allé prendre un verre, puis elle m'a dit, là, Geneviève, il faut que je te dise ton travail artistique et l'inspiration de mon texte. Alors là... Faites bon, OK.
Wow, merci.
Ouais, fait que là, finalement, j'ai dit, ben oui, y a pas de problème, tu sais, elle me le demandait un peu la permission, comme. Puis elle était, j'aimerais ça mettre des images vraiment que j'ai vues dans ton travail, j'aimerais les intégrer à la mise en scène. Le projet, c'est l'hiver dedans. Ça va être présenté à partir du 20 novembre, ma première acte, d'ailleurs. Et c'est un super beau... c'est une histoire d'une fille en peine d'amour, de la relation qu'elle a avec son voisin. Fait que c'est ça.
Puis c'est toi qui as fait les costumes.
Ben, je vais faire les costumes. Puis là, je sais pas à quel point ça va finalement aller dans mon travail. Parce qu'encore une fois, on est dans la création et c'est toujours ouvert.
Ah ouais,
ça va toujours. On n'est pas figé. Fait que là, à quel point mon travail va se retrouver là-dedans. Mon travail, je parle en art visuel.
Ouais.
Je sais pas, mais on est supposé de mettre des œuvres dans la salle du spectacle.
Okay.
Pas à l'intérieur du décor, par exemple.
Non, vraiment dans l'espace.
Ouais, ouais. Montrer celles qui ont inspiré le projet, en fait.
OK.
Puis, c'est ça. Puis sinon, ben je vais faire les costumes. Mais là, les costumes, c'est quand même une pièce là, contemporaine qui se passe dans la réalité, là, mais un peu à mi-chemin avec l'irréel aussi.
Donc, on va rester quand même dans ton image.
Quand même. Et celui de Maryse beaucoup aussi, disons-le, là, parce qu'on a beaucoup de points en commun. Là, on a le même âge, on avait à peu près le même vécu au moment où ça a été écrit. Fait que c'est beaucoup Maryse aussi. Là,
c'est dès le 20 novembre.
Oui.
Premier acte.
Ouais.
Voilà. Mmh. Ben Geneviève Lapierre, merci beaucoup.
Mais ça me fait plaisir.
Puis, ben on a jusqu'au... Ton exposition vient tout juste de débuter à l'établi.
Oui.
Donc,
oui.
Créature en désordre s'est présentée jusqu'au 20 octobre. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Le Palais Montcalm présente les Swingle Singers le samedi 20 octobre. Phénomène international de la musique a cappella, ce septuor britannique lauréat de 5 Grammy interprète aussi bien des chansons de Björk, Bach que des Beatles ou de Sting. Soyez éblouis par leur virtuosité et leur façon inimitable de chanter. Les Swingle Singers, la promesse d'une soirée musicale inoubliable. 20$ pour les 30 ans et moins, détails au palaismontcalm.ca.
Voici les livres qui ont marqué Pantoute.
Des incontournables et inclassables du polar.
La fée carabine de Daniel Pennac.
Le parfum de Patrick Suskin.
La chair disparue, de Jean-Jacques Pelletier.
Pars vite et reviens tard, de Fred Vargas.
Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les geeks contre-attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus?
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Voilà, on est de retour à l'aérospatiale, deuxième et dernière demi-heure de cette édition du 2 octobre 2012. Je répète la date, je répète l'année au cas où vous l'auriez oublié. Puis même, je dis 2 octobre et on est 9 octobre, je me trompe, voilà. Bravo, hein? Ça fait deux fois que je dis la mauvaise date. Je suis une semaine en retard dans mon calendrier. Mais au moins, je suis à jour dans mes chroniqueuses puisque Catherine Boivin, elle est là aujourd'hui. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Julie.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Oui, t'es allée faire un tour dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Québec.
Oui, c'est ça. Justement, en ce moment, avec les bateaux, j'ai eu l'attrait pour le Vieux-Port. Et puis, je suis allée voir les galeries commerciales aussi. Deux projets. Une, pour vous parler de l'artiste qui expose en ce moment chez Madeleine Lacerte. Et un projet qui a lieu au Château Frontenac. Alors, je vais commencer par le projet chez Madeleine Lacerte. Il s'agit des photographies de Laurent Guérin. Donc, photographe que je ne connaissais pas. Alors, c'était une découverte. Là, je te montre le carton très panoramique d'un paysage. Où est-ce que je pourrais te poser la question, où est-ce qu'on est?
Mon Dieu, je te dirais dans l'Ouest américain.
Exactement.
J'imagine, ou sur la Lune.
Oui.
Les nuages me font dire l'Ouest américain.
Bien, c'est excellent, Julie. C'est le fun. Je voulais qu'on le nomme, ce paysage. Moi, j'étais sûre qu'on était comme au Nevada, enfin, un désert américain. Quand on se rapproche, on voit que c'est les îles Canaries.
Oh, OK.
On s'attendrait peut-être à avoir plus des bords de mer là, pour les îles Canaries, mais là, on est comme au centre. Et une espèce de vue vraiment panoramique de montagne. C'est que c'est la couleur, le traitement de la couleur et de la lumière qui fait en sorte que c'est lunaire, parce qu'en effet, c'est comme
un effet
couleur
camailleux
roche.
Un peu aussi.
Oui, moi, j'ai trouvé dans plusieurs des photographies qui nous présentent de certains paysages, même des paysages urbains. Il va aller chercher une espèce de monochrome presque, là, enfin, ou un camailleux, c'est-à-dire une espèce de dégradé d'une même couleur, et souvent dans couleur craie. Il y en a une très belle vue de Paris aussi, où dans le fond, la ligne d'horizon est très basse. C'est comme si tu avais, un quart ligne d'horizon, puis le reste, c'est du ciel, mais très gris-blanc.
Ah ouais.
Puis c'est une vue très, très en plongée, très haute, parce qu'on a l'impression d'être il y a deux colonnes de chaque côté qui cadrent cette scène-là. Et puis, on a l'impression d'être peut-être en haut de la tour Notre-Dame. Enfin, on a un immense horizon de la ville de Paris, mais c'est à peine si on discerne les célèbres monuments. Il n'y a pas de tour Eiffel et tout. C'est, vous voyez, on est passé des îles Canaries à Paris. On va au Japon, à Shanghai. On se promène comme ça, beaucoup dans des pays asiatiques, puis un peu, bon, un peu plus, il se rapproche un peu de nous, tranquillement vers l'ouest. C'est une exposition qui s'appelle « Lieux dispersés ». Et ça, c'est vraiment de ce dont il s'agit. Hein? Ouais. C'est vraiment des paysages, parfois des paysages urbains, ou comme on vient de parler du désert, très peu de paysages, très nature. C'est aussi, semble-t-il, un pilote de petits avions. Okay. avions. Et puis, on voit que dans certaines de ces scènes, justement même urbaines, là, qu'on peut imaginer que c'est des scènes prises à vol d'avion. Tous les titres de ces photographies ont des coordonnées comme titre pour celle-ci, comme 18 degrés nord par 72 degrés est. Donc, c'est seulement ça. Puis, entre parenthèses, on nous donne la ville.
OK.
Et puis, alors, donc, il y a tout un travail sur la couleur, la lumière, vraiment, vraiment intéressant, une grande netteté aussi, splendide photo. Alors, et ça donne un bel aperçu de son parcours parce que il a fait toute une série sur Tokyo en 2009, une série sur l'Inde avec Rajasthan, Cambodge aussi, Shanghai. Et souvent, il intègre la personne, la figure humaine dans son milieu. Et là, moi, c'est ce que je m'attendais à voir, parce que j'avais fouillé un peu. Et là, beaucoup moins. Là, c'est vraiment c'est les lieux dispersés, comme ils nous annoncent. Alors, ça donne un aperçu de ces pèlerinages ou de ces voyages.
De ces pérégrinations,
oui,
à tout
plutôt.
Le moins.
Oui, c'est ça. Et de la qualité photographique, vraiment, vraiment une belle découverte chez la CERT, donc jusqu'au 28 octobre.
Précisément.
Ouais.
Et t'es aussi allée au Château Frontenac?
Oui, ben là, il se passe quelque chose au Château Frontenac. D'une part, une espèce de collectif d'artistes qui ont réalisé des œuvres, imagine-toi, avec les plaques de cuivre de l'ancien toit du Château Frontenac.
Oh!
Alors, c'est un appel, c'est une collaboration entre le Château Frontenac qui a fourni le matériau et un collectif qui s'appelle Unis vers l'art. Et c'est un jeu de mots parce que univers, V-E-R-T,
ouais,
l'art.
Ouais, ouais.
Il y a toute cette notion de recyclage que le collectif met de l'avant. En fait, le collectif, c'est surtout dirigé par deux personnes, Claude Lessard et Olivier Martineau. Ils ont fait appel, entre autres, à Gilles Vigneault pour écrire un conte.
Oh.
Inspiré, c'est un conte qui est gravé sur des plaques de cuivre du château. Enfin, ouais. Le livre est un objet d'art en soi parce que la couverture est en granit de Saint-Marc-des-Carrières, puis c'est la même pierre justement qui a servi à faire la façade, le revêtement du château, le cuivre pour les pages, c'est tout gravé au laser. Et il y a tout un système de charnières là, pour que ça... On peut manipuler le livre, là, les pages se tournent aisément.
Tu sais, est-ce qu'on met des gants?
Moi, j'ai posé la question, et puis là, je trouvais qu'eux autres, ils touchaient aux œuvres facilement. Parce que, il me semble, le cuivre, là, c'est pas bien avec l'huile de nos doigts.
C'est ça.
Mais ils ont dit, non, il y a une patine. Alors, ils semblaient pas avoir une grande réserve. Là. C'était des objets vivants, enfin. Et puis, imaginez-vous que, donc, c'est commencé, c'est débuté, c'est depuis le 3 octobre, et ça va avoir lieu, c'est très bref, parce que ça finit le 15.
OK.
Gilles Vigneault est attendu jeudi cette semaine à 2h au cellier du château, là où il y avait l'ancienne SAQ. Il va faire une lecture de son conte, une présentation, il sera là. C'est ouvert à tous. En soirée, vers les 7h, il y aura vernissage aussi de l'ensemble des œuvres, parce que il y a des œuvres de Claude Lessard, d'Olivier Martineau, mais il y a aussi au-delà de 25 artistes qui ont proposé des créations à partir du cuivre. On a dans la région de Québec, Don Darby, qui a proposé un magnifique rhinocéros. Olivier Martineau a fait des fauteuils, des chaises avec des éléments de récupération, même des éléments de bois, de serre, et puis ces fameuses plaques de cuivre. D'autres, dont là en ce moment, c'est Jean Gaudreau, qui a fait toute une série vraiment impressionnante à partir de ces plaques de cuivre, puis une peinture très abstraite, très gestuelle. Il y en a une vingtaine de ces tableaux-là en ce moment au cellier. Donc, on en parle.
Ça doit être quand même intéressant pour les artistes de travailler comme ça avec un matériau qui a autant d'histoire, tu sais, puis qui est comme un peu emblématique de Québec, là, le château.
Exactement.
Avec son toit, là, c'est assez...
Oui. Ah oui, on a l'impression, oui, parce qu'on nous dit que ces plaques-là datent de 1924. Là, ils viennent juste d'être changés, mais c'est donc, oui, ça ajoute tout un prestige, ça ajoute toute une dimension, une profondeur aux différentes œuvres. Et bien sûr, chaque artiste est allé avec sa propre démarche. Des gens pour qui, moi, il y avait plusieurs noms dont je connaissais pas, mais j'aimais la profusion. On partait dans toutes sortes de directions. On avait une idée pour le château aussi. C'était une idée de spontanéité. Là, on voyait les éclairages avec les fils un peu bric-à-brac. On occupait les lieux là de façon un peu sauvage. Puis il y avait Claude Lessard qui était là, puis qui... Les prix sont placés sur les œuvres et les touristes qui sont au château Frontenac ont beaucoup apprécié. Certains ont fait des thématiques un peu comme historiques, des portraits de nos fondateurs ou encore le château sur plaque. Alors, il y a comme double... Donc, c'était inégal un peu comme type d'œuvre. Tu as des démarches assez fortes et d'autres qui sont, je dirais, peut-être moins assumée ou plus naïve ou enfin, c'était assez inégal, mais on ne savait plus où donner de la tête. Alors là, jeudi, ils vont faire une remise en espace dans le cellier, puis parce qu'il y avait le cellier, puis dans le couloir principal du château, puis dans d'anciennes boutiques aussi, là, on occupait ces espaces-là de façon sauvage.
Fait que les artistes ont été carrément commissaires là, pour cette expo-là.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai questionné un peu M. Lessard pour ce collectif. On les connaît moins à Québec, mais ils ont des adresses, leur bureau et leur galerie est à Montréal.
Okay.
Alors, il me disait, M. Lessard, que c'était son cinquième projet, donc collectif, cinquième intervention, dont je n'ai pas eu la nature tellement des projets précédents, mais ils ont un site Internet, on peut aller voir Unis vers l'art, et surtout, aller voir ces œuvres-là au château, c'est une belle effervescence créative de tout ce qu'on a pu imaginer là avec ces plaques de cuivre.
Tu t'es présenté jusqu'à?
Ça, quand même, jusqu'au 15.
Jusqu'au 15?
Oui.
Bon, donc on a jusqu'à la fin de la fin de semaine, là, pour jusqu'à dimanche, pour y aller,
oui, c'est
pense,
ça. Ouais. C'est quand même assez, c'est assez bref, assez rapide.
Ben Catherine Boivin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
On s'en va en pause audio. On écoute « They Dwell on Other Planes » sur les ondes de CKRL. C'était bien entraînant, tout ça, c'était mon Dieu, est-ce que je viens de parler ou est-ce que je viens de baragouiner? C'était They Dwell on Other Planes de Bruce Arrizabalaga Quintet, l'album Famoudou Boudougou, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous savez que c'est des téléchargements gratuits. Puis également, vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion ou aller lire les articles dont Raymond Poirier nous parlait dans sa revue de presse. Et là, on s'en va, on fait un petit tour à Montréal puisqu'on discute avec Karine Payette qui présente l'autre dimanche matin au lieu. Bonjour Karine.
Bonjour.
La question, en fait, dans un premier temps, peux-tu nous présenter ton exposition?
Oui, en fait, l'exposition qui est présentée au lieu, vous voulez que je la décrive un peu?
Mais qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'était l'idée là, à l'origine du projet?
En fait, l'origine du projet, dans ma démarche artistique, souvent, j'assemble des matériaux usinés dans le but de créer des mises en scène qui traitent de la demeure et de l'identité, toujours dans une tension de stabilité, instabilité ou de confort et d'inconfort. Donc, pour le lieu, j'ai décidé de créer une mise en scène traitant du quotidien. Donc, si je pars du titre « L'autre dimanche matin », c'était pour faire allusion que le dimanche matin, quand on est enfant, souvent, c'est des moments privilégiés.
Ben oui.
C'est un moment que, justement, on prend notre déjeuner. Dans mon cas, j'écoutais Vosimolo. Donc, il n'est pas supposé nécessairement d'arriver de tragédie ou c'est supposé d'être confortable. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait une scène d'un bol de céréales Rice Krispies qui est renversé. Puis, la tasse de lait prend tellement d'ampleur que ça fait la majorité de l'espace de la galerie.
C'est vraiment comme une rivière de lait là, qui sort d'un tout petit bol.
Exactement. Donc, c'est ça le contenu. Donc, le lait, on peut voir qu'il y en a beaucoup trop pour le bol, justement. Donc, c'est vraiment dans l'exagération que ça prend tout son sens. Parce que normalement, un dégât, on peut le ramasser. Puis, c'est comme si, soit par un accident ou par l'approche d'une mauvaise nouvelle, c'est comme si le dégât avait vraiment pris la place, toute la place dans ce doux moment de réconfort du dimanche matin.
Ou des fois aussi, quand il y a des petites choses banales et quotidiennes qui arrivent comme ça, puis là, soudainement, on les vit vraiment comme des tragédies et c'est un peu la fin du monde. Est-ce que c'est un peu ce que tu voulais mettre de l'avant aussi?
Exactement. Donc, c'était exactement, c'est pour... dans l'exagération du moment, en fait.
Puis, mais il y a quelque chose de ludique quand même là, quand on regarde ça, parce que moi, je suis arrivée dans la galerie, puis ma première réaction, ça a été de rire un peu, de dire, ben voyons donc, tu sais, je trouve que ça fait un peu cartoonesque aussi, là.
Oui, tout à fait, parce que en plus, le bol de céréales, il tient en suspension dans les airs, donc c'est vraiment comme un arrêt photographique, puis c'est comme figé. Puis avec l'ampleur de la tâche, c'est ludique, c'est une façon pour moi, à travers mon travail, c'est comme une sorte d'escapade, un moyen d'échapper un peu en riant de ces moments-là d'inconfort.
Puis d'ailleurs, je sais pas, là, je passe dans une autre réflexion, mais moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné, c'est ce que tu as utilisé pour faire le lait.
Oui.
C'est quoi? C'est du latex? Parce que quand on regarde, là, on a vraiment l'impression d'un liquide, là.
Oui, vraiment. J'ai fait une recherche de matériaux. Puis, en fait, c'est de la résine et du silicone.
OK.
Donc, c'est un mélange de produits avec un colorant que je suis arrivée vraiment à retrouver un peu la même couleur, puis la même... ça a comme un certain reflet, vraiment comme le lait.
Puis, tu as fait aussi des petits copes. J'ai reçu ça, moi, quand je suis allée voir l'exposition.
Ah oui,
des petits shooters.
Oui, ça c'était pour le vernissage, c'était un peu pour rire là, c'était pas en lien avec l'exposition.
OK, moi je me suis dit peut-être qu'elle en a eu trop puis elle s'est dit bon ben tant qu'à ça, je vais en mettre là-dedans puis je vais donner
ça. Ah exactement,
ça,
oui, c'est parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment travaillé in situ. J'avais coulé les deux tasses à Montréal, donc les plus grosses. Puis ensuite, j'ai travaillé avec l'espace du lieu pour vraiment qu'on sente que le lait diverses choses dans le même endroit.
Puis en même temps, quand on arrive dans la galerie, parce que tu sais, on arrive, bon, la porte est comme située à gauche de la galerie, ben on est vraiment là, dès qu'on se tourne, c'est devant nous. Là, c'est comme ça s'en venait vers nous aussi.
Ouais, exactement. Comme si en fait le lieu, le centre, était un peu qui n'était pas à niveau. Donc le lait converge tout vers le même lieu. Puis par la tache blanche touche au mur blanc, mais on a vraiment l'impression d'être envahi.
Oui, que ça vient carrément imprégner là, tout l'espace.
Mm-hmm.
Puis le mobilier aussi, tu as vraiment travaillé, là, les pattes, de la table, de la chaise, tu as tout arrangé ça pour que ça soit vraiment comme instable, justement, mais on peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qui s'est passé en même temps.
Exactement, puis tu sais, c'est souvent une question sans réponse que j'aime que le spectateur se pose. Parce que là, ici, la table est en angle pour que le lait se verse encore plus. puis la chaise est à quelques pouces du sol, donc normalement elle est supposée tomber, mais elle tient elle tient par un assemblage en fait.
Puis il y a comme aussi la cuillère que tu dis, voyons, il me semble qu'elle est comme placée là, elle est trop bien placée aussi.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est volontaire justement qu'on se questionne comme ça, puis qu'on se raconte un peu l'image dans notre tête ou qu'on essaie de reconstituer l'événement?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu dans l'idée... excusez-moi, mon chien zappe. pour en revenir à votre question, oui, ça c'est comme des moments, c'est comme cinématographique. C'est comme si on était plongé dans une pièce de théâtre, mais on n'a pas accès au personnage, on n'a pas accès à avant, à après. C'est vraiment un moment figé. C'est comme une photo, mais qu'on peut circuler. Donc, on n'aura jamais accès... au déroulement de l'histoire parce que le spectateur devient vraiment narrateur.
Oui, c'est ça. Puis en même temps, comme il y a quelque chose de quotidien, on peut tous s'imaginer la situation, on peut tous s'imaginer à la place de la personne qui aurait fait tomber ces choses, justement. Cette idée de quotidien, j'ai envie de faire le lien aussi avec l'habitat, hein, parce que puis l'habiter aussi, tu t'intéresses beaucoup à ça.
Oui, parce que en fait, ma recherche par rapport à l'habitat, parce que pour moi, je vois ça comme un espace de repère, puis une frontière entre la vie privée puis la vie en société. Puis ça peut être une enveloppe protectrice, mais en même temps, ça peut être super fragile et précaire. Je pense à, par exemple, quand il arrive des événements, des déménagements qui sont pas supposés nécessairement, qui se chevauchent, en fait, un déménagement après l'autre. Ça crée de l'instabilité ou, je sais pas, moi, je pense à un tremblement de terre ou une perte de la demeure. Donc, je fais vraiment le contraste entre le confort et l'inconfort que la demeure peut nous donner.
Puis c'est présent aussi là dans l'œuvre qu'on voit au lieu. Là. Puis tu parles aussi d'instabilité. Je suis allée un peu surfer sur ton site Internet. C'est quelque chose qui semble te préoccuper aussi depuis un certain temps, cette instabilité-là.
Oui, exactement. J'avais fait aussi que j'avais présenté à l'Engin.
Ben oui, c'est ça.
Dans le cadre de la off manif. C'est des meubles empilés avec un moteur, puis le moteur il tourne, puis tous les meubles sont empilés de façon précaire. Donc on a comme l'impression qu'à tout moment tout pourrait s'effondrer, mais ça tient quand même. Donc toujours dans le rapport de créer une tension ou un inconfort chez le spectateur.
D'ailleurs, parlant de ce que tu avais présenté à l'Engin aussi, il y avait ton oiseau, je pense, qui était dans l'exposition.
Oui, donc il y avait comme c'est comme si la cage elle avait été au-dessus de la colonne, en fait, de meubles, puis il était tombé. Donc, la cage était en angle avec l'oiseau. Puis souvent, les gens, leur premier, ce que ça leur faisait, ils avaient tout de suite envie de remettre la cage droite.
Ah ouais?
Ouais, les enfants, surtout, là, c'était beau à voir parce que pour eux, la cage allait droite, mais en fait, l'oiseau, il s'en rend pas compte si la cage est droite ou pas. Donc, ça crée comme un genre d'inconfort. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, jouer avec les règles établies, les normes, comment que c'est supposé d'être, puis de défaire, en fait, pour que les gens soient déstabilisés.
Puis, en même temps, ben tu sais, c'est quand même aussi, j'imagine, un défi, là, du point de vue technique, d'être capable de créer l'effet d'instabilité, mais que ça tienne.
Oui, tout était dans une question, dans l'assemblage, en fait. Parce que la tour, elle a quand même 8 pieds de haut.
Ouais,
puis avec un moteur
hein?
qui tourne, ça bougeait. Donc, c'est dans mon travail d'assembler, en fait.
Ben, Karine Payette, merci beaucoup.
Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous.
Puis, on a jusqu'à dimanche pour aller voir l'autre dimanche matin. C'est présenté au lieu, donc sur la rue Dupont. On s'en va en pause audio. On écoute Tiempo Espacial sur les ondes de CKRL. Voilà, c'est un dernier extrait de l'album Une femme au dos, Boudougou, qu'on peut retrouver dans les liens, en fait, dont on peut retrouver les liens pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Décidément, aujourd'hui, je bégaye, je me mêle dans mes mots, ma langue fourche pendant que je parle, mais bon, c'est pas grave, ça altère pas ma bonne humeur. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Avant de quitter, quelques petites suggestions. Vous savez qu'il y a l'exposition Art et nature au Moyen-Âge qui vient tout juste de commencer au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir l'expo, ça peut être fort intéressant. Mais aussi demain à 19h30 au Musée des beaux-arts dans l'auditorium, une conférence autour de cette exposition-là, une conférence qui s'intitule « Québec, une ville médiévale ». Donc, on va s'interroger à ce sujet-là. Et jeudi, si vous avez envie de vous procurer une œuvre d'art et de faire une bonne action en même temps, bien, dès 17h, il y a l'encart bénéfice des œuvres d'art au profit des ateliers de la mezzanine qui est au studio d'essai de Méduse. Donc, ça peut valoir la peine, c'est de 17h à 19h, je répète, au studio d'essai de Méduse. En fin de semaine, se terminent quelques expositions, dont celle de Claire Annick, Épuisé le métal, qui est présentée à Engram, Anticos de Richard Baillargeon, qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, et également celle de Karine Payette, qui se termine, tout ça se termine dimanche, donc pourquoi pas vous faire un petit circuit art visuel avant le renouveau. Et sur ce, ben, c'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Je remercie mes collaborateurs et Jacques Gignac. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de CKRL et je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Et nous, on se revoit mardi prochain.